Le cinéma au féminin, ça existe de plus en plus. Peu à peu, on voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes qui se sont dit « mais le son, ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie ». Ça veut dire qu'il faudra faire face dans très peu de temps à un phénomène complètement naturel. Il y aura peut-être autant de femmes cinéastes que d'hommes cinéastes et qui va s'amplifier.
Go ahead and stare. I'm not ashamed.
C'était une fleur exorbitante pour André Breton, une déesse lumineuse et forte pour Philippe Soupeau et une panthère pour Abel Gance. Comme la panthère, elle était indépendante et ne souhaitait surtout pas appartenir à un groupe. Mais cela n'a rien enlevé à sa puissance et sa force. La femme dont on va parler aujourd'hui est née rebelle comme d'autres naissent coiffées, aimait-elle répéter. Elle fut réalisatrice, productrice, actrice, scénariste, critique, écrivaine. Elle aimait le cinéma dont elle avait fait son métier, mais elle se passionnait aussi pour l'art et les artistes, la littérature et les jeux autour des mots. Elle qui écrivait en français, sa langue d'adoption. Dans son cinéma, elle s'est plu à mettre en scène des héroïnes prenant leur revanche sur la vie et la société patriarcale, défiant la censure à de nombreuses reprises. Disparue en novembre 2020 du Covid, elle laisse derrière elle une œuvre unique et à son image, libre et éclectique, décalée et jamais sérieuse. Il s'agit de Nelly Kaplan.
Moi, je me balance, je m'offre à tous les vents sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, des graphes et des cols blancs de vos consciences. Moi, je m'en balance.
Pour parler de Nelly Kaplan, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Serge Bromberg, patron de Lobster Film, société de restauration et d'édition de films classiques, et accessoirement ami de Nelly Kaplan, qui a restauré récemment la plupart des films de Nelly Kaplan. Bonjour Serge, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Esther.
Alors, je vais rappeler quelques repères biographiques pour commencer cet épisode. Donc, Nelly Kaplan est née en Argentine. On pourrait penser qu'elle est française, mais en fait, elle est d'origine argentine. Elle est née en 1931 dans une famille bourgeoise plutôt traditionnelle. Elle s'entend bien avec ses parents, mais elle sent un certain décalage. Elle est sans doute un peu trop libre pour eux et n'aspire pas du tout à une petite vie rangée de femme au foyer. Pour elle, la société sud-américaine est encore très marquée par les dictats des rapports entre hommes et femmes. Et donc, elle décide de quitter Buenos Aires et de rejoindre la France, un pays qu'elle admire beaucoup. C'est ce qu'elle fait en décembre 1952, à 21 ans, à bord du paquebot Le Claude Bernard. Elle débarque au Havre début 1953 avec un peu d'argent en poche et une carte de journaliste. Assez rapidement, quand elle arrive à Paris, elle rencontre Abel Gance, avec qui elle va travailler pendant près de 10 ans. Et ça, c'est quand même une drôle de coïncidence, parce que c'est en sortant de son film J'accuse, qu'elle a découvert à Buenos Aires à l'âge de 9 ans, qu'elle a annoncé à ses parents qu'elle voulait faire du cinéma. Alors, ma première question pour vous, Serge, ce serait de savoir ce que lui apprend Abel Gance et que va faire Nelly Kaplan à ses côtés, parce que c'est vrai que de prime abord, comme ça, on se dit qu'il y a peu de points communs entre leur cinéma.
Il n'y a aucun point commun entre le cinéma de Nelly Kaplan et celui d'Abel Gance, à part évidemment une grande admiration de l'une pour l'autre, puisque chronologiquement Nelly arrive donc bien après, elle est beaucoup plus jeune que Gance, comme vous l'avez dit. Et la réalité, c'est que Nelly Kaplan n'est pas une cinéaste au moment où elle arrive à Paris, et ses rencontres successives et son amour pour le cinéma font qu'elle va apprendre de Gance énormément de choses. Elle va être son assistante sur un certain nombre de films, et elle va travailler avec lui sur le Magirama, une sorte de mise en triptyque de plein de films originaux ou de vues anciennes, qui font que c'est avec Abel Gance qu'elle va apprendre le cinéma. Elle a une relation amoureuse avec Abel Gance extrêmement profonde et extrêmement durable, puisqu'elle écrira même un livre sur la fin de sa vie reprenant les correspondances qu'elle avait avec Abel Gance, qui s'appelle « Mon signe, mon signe ». Et de cet amour assez passionnelle et déglinguée, comment pourrait-il en être autrement avec Abel Gance, elle va retirer la certitude que cette distance qu'elle a vis-à-vis du monde classique est la voie à suivre et qu'il faut clairement inventer. Inventer un nouveau cinéma, inventer une nouvelle relation aux hommes, inventer une nouvelle relation à l'espace social. Et je crois que c'est pour ça que Nelly Kaplan a toujours été considérée comme la flibustière du cinéma. C'est là qu'elle l'a appris, c'est avec Gance, à être une flibustière.
Après plusieurs années aux côtés d'Abel Gance, donc Nelly Kaplan décide de réaliser son premier film en 1961, un court-métrage documentaire qui rend hommage à un peintre qu'elle admire beaucoup, c'est Gustave Moreau, et vont s'en suivre plusieurs autres courts-métrages documentaires, donc beaucoup de films consacrés à des artistes qu'elle admire, comme le graveur et dessinateur Rodolphe Brédin, un documentaire aussi sur Abel Gance en 63, sur les dessins de Victor Hugo en 66, sur les dessins érotiques d'André Masson également en 66, et aussi sur l'œuvre de Picasso en 67, qui a gagné un prix au Festival de Venise. Est-ce qu'on peut dire que c'est avec ses courts-métrages documentaires qu'elle fait ses armes de réalisatrice ?
Certainement, en tout cas c'est la première fois qu'elle passe seule de l'autre côté de la caméra, mais avant cela et pour faire cela, elle a quand même eu une longue carrière de critique et, en France, de découverte du cinéma. On a évoqué sa rencontre donc avec Gance qui s'est quand même passée pas n'importe où puisque c'était à la Cinémathèque française lors d'une projection dédiée à Méliès. Et Nelly était une femme d'une très fascinante intellectuellement et d'une très grande beauté. Donc elle a très rapidement, su comment nager à l'intérieur de ce petit microcosme du cinéma. En 1962, elle est choisie par Georges Sadoul pour faire partie des premiers animateurs de la toute nouvelle Semaine de la Critique au Festival de Cannes. On dit même que c'est elle qui a inventé le nom La Semaine de la Critique. Et à partir de là, elle a commencé à rentrer dans des réseaux et dans des sphères sociales qui, évidemment, lui ont permis d'imaginer énormément de choses. Donc le premier film, Gustave Moreau, était clairement un film où elle photographiait elle filmait des toiles. Donc on n'était pas vraiment dans une grande richesse cinématographique. Mais ensuite, elle a commencé à élaborer ses courts-métrages, à rencontrer des Picasso, à rencontrer des gens comme ça, à aller dans des réseaux très intellectuel. Elle a rencontré André Breton en 1956, qui lui a ouvert un grand nombre de réseaux. Bref, à l'arrivée, le cinéma de Nelly Kaplan s'est éclos à l'ombre du court-métrage, mais clairement, ce n'est que suite à la rencontre avec celui qui restera son compagnon jusqu'à ses derniers jours, Claude Makowski, qu'elle va pouvoir commencer à entrevoir la possibilité de faire un film, d'abord parce que Makowski avait beaucoup d'argent, il était suisse, et ensemble, ils ont décidé de monter la société Citer Film, et c'est cette société Citer qui va produire les documentaires autour d'Abel Gance, Abel Gance et son Napoléon notamment, et donc produire les derniers courts-métrages avant le premier grand film, Le Choc, La fiancée du pirate.
Nous, ça sans rancune.
Pas question!
C'est cette salope qui les a ensorcelés. Sa mère était une étrangère, pas vrai? Une romanichelle. Ces gens-là, faut se méfier. Il y a qu'à les regarder de près pour voir ce que c'est. Non, allez, donnez-moi un petit diabolomante comme d'habitude, maman.
On dirait Fifine.
Elle est en train de me voler mon Émile! Aidez-moi!
Putain!
Voleuse d'hommes, sorcière! Quelle crève comme sa mère!
Faudrait lui donner un vulnéraire! Mais non, un vulnéraire! Cette fois-ci, c'est trop, hein. Il faut la corriger et la chasser définitivement d'ici.
Courage, Fifine, on va te retrouver dans les mines!
Tu sais, si je me retenais pas, hein, je lui filerai un bon coup de chapotine. Voilà ce qu'il lui faut. D'ailleurs, j'y vais, tout seul, s'il le faut. Alors, vous venez vendre de dégonfler?
Allez, allez-y tout de suite! Monsieur Paul! Julien! Allez! Allez, Félix!
Ah, commerce.
Oh, allez, allez! Allez, traîne!
Ah, oh, bah doucement, voilà!
Le point de départ du film, il me semble que c'était une envie de la part de Nelly Kaplan de raconter l'histoire d'une sorcière des temps modernes qui brûle les inquisiteurs au lieu d'être brûlée. Alors la sorcière, c'est Marie, interprétée par Bernadette Lafont, donc une jeune femme qui vit pauvrement dans une cabane dans la forêt et qui va décider de prendre sa revanche contre le village voisin, le village Tellier, après la mort de sa mère. Et le film donc montre sa revanche contre les hommes de ce village qui sont sont tous plus ou moins amoureux ou attirés par elle et qui sont tous méprisants, lâches, malhonnêtes, hautains, radins. Et c'est vraiment le premier long métrage de Nelly Kaplan et le film qui la rend célèbre. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, elle devient extrêmement célèbre, alors qu'en fait, elle avait vraiment galéré à trouver un financement. Le film a été refusé par une vingtaine de producteurs et comme vous l'avez dit, Serge, il a été finalement produit par son ami et collaborateur Claude Makowski. Quelle est la réception du film à sa sortie en 69 et pourquoi fait-il scandale ?
Alors, il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Le film ne marche pas très bien parce que, enfin, il est évidemment un événement. On voit tout de suite la qualité du film, mais il remet tellement en cause toutes les valeurs sociales, et pas seulement pour autour des hommes, hein. C'est vraiment une remise en cause, une implosion totale du rapport homme-femme, des hypocrisies sociales. Enfin, vraiment, elle y va à la Kalachnikov. Elle était très libre, hein, donc c'est elle qui a fait son propre scénario. Et surtout, ce film est l'anti-Nouvelle Vague, mais aussi l'anti-Claude Lelouch. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le côté romanesque, romantique, Lelouch. Bon, évidemment, je ne parle pas du cinéma commercial que l'on connaît et qui, lui, est tout à fait autre chose. Mais le cinéma de la Nouvelle Vague, qui a 10 ans de moins, hein, qui date de la toute fin des années 50, est un cinéma beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus intello, etc. Non, là, ici, clairement, soyons clairs, c'est une histoire de cul, une histoire de fesses. Et Nelly Kaplan adorait ça. Je veux dire, regardez Citer dans le dictionnaire, vous comprendrez que si elle a choisi ce nom pour être celui de sa société, ce n'est pas un hasard. Nelly adorait les hommes, adorait le sexe, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Dans tous les films, il y a des séquences de cette nature. Elle adorait aussi l'occultisme, d'où probablement cette particularité du personnage de Bernadette Lafont dans La fiancée du pirate, mais en réalité, c'est l'histoire d'une femme qui désingue toute une communauté d'hommes avec son derrière, parce qu'elle est bien roulée et que les hommes, finalement, ne pensent qu'à ça. Et il fallait le dire, et le dire simplement et de manière tellement brute et tellement brutale qu'en 1969, mais ça fait tout exploser. Le film est interdit à la télévision, il est d'ailleurs relativement peu montré encore aujourd'hui. Je crois qu'il n'est jamais passé sur Arte. C'est vous dire, hein. Alors qu'il est couvert de prix et qu'aujourd'hui c'est considéré comme l'un des plus grands films des années 60. Enfin bref, c'est le film d'une femme libre et qui crache sa liberté sur l'écran et c'en est incroyablement lumineux. Nelly Kaplan, jusqu'à la fin de sa vie, a revendiqué haut et fort le fait qu'elle était Bernadette Lafont, elle était la même personne. Si avec son derrière, elle pouvait humilier ou elle pouvait construire, l'important, c'était d'humilier ou de construire quand elle en avait envie. Et c'était une femme peut-être d'une autre époque, mais elle était en tout cas celle qui a ouvert une voie à voix VOIE et voix VOIX au rôle nouveau des femmes dans le cinéma. Je veux dire, les femmes dans le cinéma à l'époque, c'était Françoise d'Orléac, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau. Enfin bref, c'était des personnages de fiction. Nelly Kaplan, elle était bien là. Et elle disait bien haut et fort toutes les absurdités et l'aspect ridicule d'un certain nombre de traditions françaises et autres. Faut dire aussi que la famille de Nelly Kaplan venait d'une famille juive. Et même si, qui venait de Russie, hein, et qui avait émigré en Argentine. C'est donc quelqu'un qui est presque une apatride à l'intérieur d'elle-même. Où qu'elle soit, elle est Nelly Kaplan. Voilà, elle construit son centre le centre de polarité. Et d'ailleurs, partout où elle était le centre du monde. C'était absolument, mais c'était très spectaculaire. Quand j'étais avec elle au conseil d'administration de la Cinémathèque française, quand elle prenait la parole, mais même si elle était déjà un petit peu âgée, mais on l'écoutait avec recueillement et admiration. Alors qu'on ne pouvait pas en dire autant des autres membres, qui étaient d'ailleurs surtout des hommes à l'époque. Voilà, donc c'était vraiment une pionnière.
Chaque film est une aventure, comme si vous commenciez à zéro. On vous a collé une étiquette, il faut que vous la respectiez. Si vous ne la respectez pas, c'est de nouveau l'iconoclaste, on se méfie. J'avais envie de faire d'abord la parodie d'un film noir, Et puis j'avais une autre idée qui m'a failli me coûter très cher, c'est que je voulais faire jouer des personnages comme des personnages de dessins animés, comme des personnages de Tex Avery.
Elle fait un autre film qui s'appelle Papa les petits bateaux, ça vient assez rapidement, 2 ans après La fiancée du pirate. Et pour le coup, qui ne marche pas du tout comme La fiancée du pirate, le point de départ de ce film, c'est qu'en fait, Nelly Kaplan avait remarqué que les femmes dans les films noirs américains des années 40 faisaient toujours maltraiter ou gifler. Et là, elle a décidé de mettre en scène un personnage féminin qui finit par bousiller tout le monde. Mais voilà, le film n'avait pas très bien compris parce qu'en fait il met en scène une série de gags visuels, elle s'inspire un peu de l'univers de Tex Avery, en même temps qu'elle souhaite faire une parodie de film noir, et donc le film ne marche pas et est boudé par le public. Donc ça c'est le premier revers un peu dans la carrière de Nelly Kaplan, si je me trompe pas.
C'est-à-dire que tant qu'à faire un désastre, autant qu'il soit magnifique. Et l'échec commercial, mais pas du tout artistique, de La fiancée du pirate, qui va rester, hein, pour le compte, l'alpha et l'oméga du cinéma de Nelly Kaplan, et qui, a, in fine, lui rapportera beaucoup d'argent. Mais Papa, les petits bateaux, c'est, tiens, et si on faisait, et puis si on faisait, voilà, une femme qui descend tout le monde, on va tourner à la vitesse d'un cartoon, mais ce sera des vrais gens, et voilà, avec une actrice américaine qui crie tout le temps, parce que dans les dessins animés, ça crie tout le temps. Mais les dessins animés, ça dure 6 minutes. Et le Papa, les petits bateaux en dure 1h30. Et à la fin, c'est vrai que c'est un film qui est raté. Et d'ailleurs, Nelly le reconnaissait elle-même. Dans sa vie, elle a fait 2 ou 3 films réussis. Pour le reste, elle considérait que son œuvre cinématographique était assez mineure. L'œuvre ultime de Nelly Kaplan, c'était Nelly Kaplan. Ouais. Son personnage, sa vie, qui elle était, qui elle a rencontré, ce qu'elle a écrit, ses collections merveilleuses de gravures, de lettres authentiques et de choses comme ça, c'était merveilleux quand on allait chez elle sur les Champs-Élysées. Mais en réalité, il y a eu beaucoup de films ratés dans la carrière de Nelly Kaplan. Je sais qu'on faut pas dire ça. Mais en même temps, maintenant, on peut le dire, Nelly est partie au mois de décembre, Claude Makowski est parti quelques mois plus tôt, et à l'arrivée, il y a 2-3 films vraiment, vraiment, vraiment réussis, mais de temps en temps, Nelly tournait parce qu'elle avait envie de tourner. Voilà. Alors, Papa, les petits bateaux fait partie des films qui n'ont pas été des films, comment dire, importants et qui ont marqué. Il y en a bien d'autres. Néa est passé relativement inaperçu. Puis après, il y a eu son deuxième, à mon avis, grand film qui s'appelle Charles et Lucie. Un film très étonnant avec Ginette Garcin et Pierre Perret et Daniel Scaldi avec ouais. Une chanson de Pierre. Vous imaginez une chanson de Pierre Perret, vous imaginez l'attirail Daniel Scaldi et Ginette Garcin dans un film qui date de la fin des années 70. Enfin, c'est le truc le plus improbable qui soit. Et alors, le thème de ce film, si on peut le résumer, c'est un homme et une femme, bon, un peu crédules, etc., à qui il arrive quelques aventures, et au milieu du film, ils se retrouvent sans maison, sans rien, sans argent, sans voiture, sans aucune propriété, et tout nu sous un arbre. Comment redémarrer une vie quand à un moment du scénario, on ne connaît plus personne, on est dans un endroit perdu au milieu de nulle part, on est tout nu et on n'a rien. Et je trouve que c'est une idée absolument formidable pour justement, là encore, démonter toutes ces traditions sociales, ces signes, ces réseaux, ces entre-gens, etc. Où là, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus rien?
Et la société de consommation aussi, parce qu'en fait, la société de consommation, en fait,
tout, voilà, non, absolument tout. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes nu, vous n'avez rien, ça veut dire que vous devez repartir soit en réinventant tout. C'est une sorte de genèse. Et d'ailleurs, dans l'affiche originale, il y avait une pomme et un serpent. Ouais. Donc, vraiment, c'est la genèse version Nelly Kaplan et Claude Makowski. Et c'est un film très drôle, très insolite et très marginal. Finalement, très Nelly Kaplan.
Je demande pardon, est-ce que je suis bien dans l'avenue Albert Einstein?
Ah, ça, oui, mon vieux, pour sûr.
Oui, non, l'avenue Albert Einstein à ailleurs.
Parfaitement.
Ah, là, ça, je comprends pas. Je cherche cette ville-là.
Ce genre de palais, ce n'est pas par ici, mon vieux. Ah non.
Non, mais pourtant, c'est bien écrit au dos. Bah, regardez, 34, Avenue Albert Einstein.
Au 34?
Oui, 34, c'est écrit, oui.
C'est bien ici, mon pote.
Alors?
Il doit y avoir une erreur. Regarde l'adresse dans les papiers de l'héritage. Dans la boîte à gants. Alors?
Ça vient. Charles, c'est bien ce qu'il y a d'écrit ici aussi. 34 avenue Albert Einstein, ailleurs.
Oh, c'est une erreur de rue.
Ou de ville.
Qu'est-ce que tu fais?
Vont s'en suivre deux films, donc enfin un téléfilm qui s'appelle Pattes de velours en 1987, où elle retrouve Bernadette Lafont et Michel Bouquet, et un autre film, Plaisir d'amour, en 91, avec notamment Pierre Arditi, Dominique Blanc et Françoise Fabian. J'aimerais m'attarder sur ce film parce que moi je l'ai beaucoup aimé. Plaisir d'amour, c'est une sorte de Don Juan moderne qui arrive sur une île pour devenir le précepteur d'une jeune fille et qui décide de séduire la mère, la grand-mère et la sœur de son élève qui est absente, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait ce sont elles qui l'utilisent. Et en fait, Nelly Kaplan a eu l'idée de ce film quand elle a lu Don Juan Tenorio de Tirso de Molina, et elle s'est rendue compte que les femmes étaient extrêmement soumises à Don Juan, et elle s'est demandé mais comment c'est possible qu'il n'y en ait pas une qui se révolte face à lui. Et donc avec Jean Chapeau, avec qui un autre des grands collaborateurs de Nelly Kaplan, avec qui elle a écrit le scénario, ils ont décidé de renverser le mythe. Malheureusement, si j'ai bien compris, je crois que le thème du film dérange un peu. Les chaînes de télévision, refusent toute coproduction. Et c'est encore un film qui va rencontrer un sort commercial assez décevant.
Le film, qui est l'un des films préférés de Pierre Arditi aussi, a été mal reçu. D'abord parce qu'évidemment, il mettait la femme en position de pouvoir. C'est la femme qui manigance et c'est Don Juan qui se fait prendre au piège. Mais aussi parce que c'est un film très militant, mais en 1991, être très militant sur le pouvoir de la femme sans abdiquer l'aspect sexuel, la domination sexuelle de la femme sur Don Juan. Hein. C'est clairement, là encore, on est chez Nelly Kaplan, le sexe est très important et il est partout, dans tous les plans, mais c'est une manière de faire la révolution. Donc, quelque part, effectivement, elle utilise cette mécanique inversée pour faire sa révolution. Et que le film ait eu du succès ou pas, il n'en a pas eu beaucoup, à mon avis, lui importait assez peu. Elle voulait que le film soit comme ça, et c'est comme ça qu'il a été.
Allez-y. Vous avez l'air préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas?
Rien.
Si, dites-moi.
C'est agaçant à la fin. Chaque fois que je leur fais des avances, elles les repoussent.
Des avances?
Eh oui. Chaque fois que je fais une suggestion pour améliorer ou organiser le cours des choses, c'est toujours non. Ça continue, ça finira en catastrophe, et la pauvre Flo n'aura plus rien. Les femmes ne sont pas faites pour gouverner, docteur. Elles sont beaucoup trop vulnérables, beaucoup trop nerveuses. Sans parler du domaine intellectuel. Michel-Ange était un homme, que je sache. Et Shakespeare en avait deux.
Je n'étais pas là pour les compter. Personnellement, je trouve souvent que les femmes sont plus courageuses, plus résistantes que les hommes. Quand j'étais jeune, j'avais de très remarquables érections. Hélas, maintenant... Savez-vous, mon cher Willy, que les femmes ont quand même cette supériorité sur nous de pouvoir jouir jusqu'à leur dernier souffle?
Et je ne vois pas l'intérêt.
Vous le verrez plus tard.
Mais c'est vrai qu'elle s'amuse toujours à renverser un peu les rapports entre hommes et femmes. Et je voulais savoir comment, Serge, vous pourriez caractériser l'œuvre de Nelly Kaplan.
Mon sentiment, c'est que, évidemment, le premier qualificatif qui vient en tête, c'est libre, évidemment. Révolutionnaire, évidemment, puisque tous les films questionnent profondément l'ordre social. Mais je crois que ce qui caractérise d'abord et avant tout les films de Nelly Kaplan, c'est que ce sont des films qui ont été tournés en dehors des circuits, donc indépendants, et sans véritable obligation de tenir le coup financièrement, puisqu'à nouveau, son compagnon, Claude Makowski, était extrêmement riche. Je rappelle qu'il vivait dans 250 mètres carrés, sur une terrasse de 600 mètres carrés, en bas des Champs-Élysées, avec vue sur les jardins des Champs-Élysées, la Tour Eiffel, les Tuileries. Enfin, j'ai jamais vu un endroit aussi luxueux et aussi merveilleux.
J'imagine.
Donc voilà, clairement, l'argent n'était pas une question. Et du coup, cette liberté donnée par l'absence de contraintes financières a fait peut-être d'ailleurs que Nelly a détricoté son envie de faire du cinéma pour construire davantage le discours, les thèmes, et perdre un petit peu la grammaire fondamentale du cinéma. On ne peut pas dire que ce soit une très grande cinéaste en tant que telle. Elle a commencé comme ça, mais au bout d'un certain temps, ses films devenaient des actes militants et des actes des prises de parole. Toujours dans cet univers de séduction, des femmes sur les hommes, mais aussi des hommes sur les femmes. Hein, il n'y a pas de supériorité ou de sexisme. Quelque part, pour elle, l'amour est quelque chose d'abord totalement hétéro, mais extrêmement partagé. Il faut de la gourmandise et de la volupté sur ce registre-là. Et du coup, peut-être l'époque est partie dans d'autres directions, et au fond, elle a voulu être qui elle était. Et ne pas essayer de s'insérer dans les modes ou dans ces choses-là. Elle était très libre.
Et en fait, on n'a pas précisé aussi que Nelly Kaplan était très proche des écrivains surréalistes André Breton et Philippe Soupeau. Et je voulais savoir, est-ce que le surréalisme a eu une influence quelconque sur son œuvre ?
Alors, il a peut-être eu une influence au sens où c'est ce qu'il a introduit à l'occultisme, à la superstition, à la cartomancie, à la lecture dans les boules de cristal, etc. D'ailleurs, sous son surnom Bélène, elle apparaît dans certains films comme cartomancienne elle-même ou diseuse de bonne aventure, etc.
Dans Charles et Lucie, notamment, ouais.
Voilà, c'est ça qu'elle a retiré probablement du surréalisme. On ne peut pas dire qu'elle ait été une héritière du dadaïsme ou du non-sens. Clairement, il n'y a pas d'humour absurde dans les films de Nelly Kaplan, et même quand on lui parlait, elle était extrêmement terre-à-terre, tout à fait érudite et tout à fait logique. Elle n'allait jamais dans ces univers parallèles dont les héritiers à l'époque étaient peut-être Tati, Etex, les héritiers des burlesques, les Prévert, les Douaneaux et des trucs, mais non, les Raymond Queneau, mais elle n'était pas là-dedans. Elle était vraiment dans quelque chose de beaucoup plus organique. Voilà, le plaisir. Voilà.
Enfin, c'est vrai que l'érotisme, d'ailleurs, a une part importante dans son œuvre cinéma, mais aussi dans son œuvre littéraire, parce qu'en fait, elle a beaucoup écrit des années 60 jusqu'aux années 2000, des fictions, des romans érotiques, des écrits sur le cinéma. Et au départ, elle écrit, il me semble, sous un pseudo, parce qu'elle sait que la censure est là à la guetter et que, voilà, en tout cas, c'est vrai que l'érotisme
a toujours
été...
Et surtout, elle n'a pas envie de tacher son personnage de critique d'art et de cinéma justement de prêter le flanc à des gens qui pourraient médire et la discréditer en arguant du fait qu'elle écrit des œuvres dans ce registre. Mais quelle gourmandise! Cette Nelly Kaplan avait un appétit d'ogre.
Ça me paraît très important, quand on réussit à le faire, qu'un spectateur qui sort d'un de vos films ne soit pas le même que celui qu'il était avant d'y entrer. Il faut pour les personnages la même chose. S'il n'y a pas une évolution, s'il n'y a pas une révolte. C'est-à-dire, moi ce que j'aime dans mes films, c'est dire aux gens, apprenez à dire non. Parce que c'est très bon pour la peau.
J'ai l'impression qu'elle, effectivement, elle savait de toute façon qu'elle allait devoir affronter la censure, et évidemment, dans les années 70, les années Pompidou, les années Giscard, la censure était partout, donc voilà, c'est on coupe le X, on enlève tout, voilà. Mais je crois que surtout, elle aimait se positionner en personne persécutée. Je veux dire, si on la persécute, c'est qu'elle est importante et que ce qu'elle dit est vrai et qu'il faut que les adversaires du vrai viennent l'empêcher de parler. Donc elle s'est inscrite assez rapidement dans cette dynamique-là. Enfin, soyons clairs, à côté de ça, elle fréquentait le beau monde. Quand elle avait besoin d'argent pour faire ceci ou cela, elle l'avait. Quand elle avait besoin de réseau, tout le monde lui donnait ses réseaux. Et du coup, elle faisait partie de l'intelligentsia. D'une certaine manière, elle représentait la part négative, ou plutôt la part contre de tout ce que l'intelligentsia représentait de part pour. Il n'y a rien de tel que de contrôler sa propre critique pour renforcer ses propres valeurs. Elle a souvent été le faire-valoir d'un certain nombre de choses qu'elle dénonçait elle-même. Mais c'est ainsi, je veux dire, il faut à toute cellule, il faut un ADN. Elle a été probablement l'ADN de cette indépendance et de cette revendication d'autonomie, de libre parole des femmes qui n'existait pas auparavant. Elle s'est trouvée à un moment où il fallait faire ça, et quelque part, elle était évidemment la parallèle de Simone Veil en politique ou d'autres gens en matière de droit, Gisèle Halimi, etc. Elle s'inscrit dans ce mouvement-là, bien sûr.
Pourtant, elle voulait surtout pas qu'on dise d'elle qu'elle était féministe. Ça, c'était vraiment hors de question. Son œuvre est que son œuvre est féministe, mais elle ne l'était pas.
Non, mais je suis même pas certain que son œuvre était féministe. La réalité, c'est qu'elle clamait une liberté et une égalité totale de l'homme et de la femme dans leurs relations sexuelles et sociales. Donc, c'est pas du sexisme. Il s'agit pas de dire, attendez, les femmes d'abord ou les femmes. Ce ne sont pas des films de femmes. C'est des films qui revendiquent une liberté et donc une égalité. S'il y a la moitié des êtres humains qui sont des hommes et l'autre moitié qui sont des femmes, alors il faut que les deux moitiés puissent s'exprimer en même temps. C'est pas l'une ou l'autre ou truc, voilà. Et quelque part, dans tous ces films, c'est vrai que c'est la femme qui a le beau rôle, mais c'est la femme qui a le beau rôle dans une sorte d'amour gourmand de la relation à l'homme. C'est un cinéma très hétéro, en fait. Et qu'effectivement, je ne crois pas féministe.
J'aimerais juste la citer parce que j'aimais bien, dans son autobiographie, Entrée, c'est ouvert. Il y a beaucoup de jolis passages et j'aimais bien celui-là. Je revendique que je ne suis pas misogyne, mais je ne peux pas dire que j'adhérais au mouvement féministe. Ça devient un piège dans le sens où c'est un ghetto. Je suis complètement réfractaire au festival de films de femmes, car je n'ai jamais vu un festival de films d'hommes, de chats ou de singes. La création est androgyne et je le revendique. Un film de femmes n'est pas un film à part entière. Je trouve qu'on retrouve totalement l'esprit de Nelly Kaplan et son humour dans cette citation.
Vous savez, c'est ce que disait Raymond Aron. Il disait « Les hommes de droite ont ceci en commun avec les hommes de gauche, qu'ils sont hémiplégiques. » En fait, il faut les deux côtés. Sinon, c'est pas drôle. Eh bien voilà, Nelly Kaplan, elle aimait que ce soit drôle. Et je la retrouve tellement dans chacun des mots que vous venez de prononcer. C'est un vrai bonheur.
Pour finir, donc dans les années 80 et 90, elle continue à écrire des romans comme Aux orchidées sauvages, Un manteau de fou rire, Ils furent une étrange comète. Elle coécrit la plupart des téléfilms de Jean Chapeau, donc son grand collaborateur avec Claude Makowski, donc des téléfilms qui marchent plutôt bien. Et donc elle ne réalisera plus, hein, son dernier film date de 91 avec Plaisir d'amour. Merci au mouvement Up de coproduire ce programme et merci beaucoup Serge Brandberg. Je rappelle que Lobster Film a réédité la plupart des films de Nelly Kaplan, donc La fiancée du pirate, Papa les petits bateaux, Charles et Lucie, Plaisir d'amour et également un film qu'elle a coécrit et produit, Il faut vivre dangereusement.
Et je puis rajouter que ces courts-métrages sont édités en DVD chez Frémaux et Associés. Donc d'accord. Comme ça, vous pouvez découvrir la quasi-totalité de l'œuvre de Nelly Kaplan. Seul Néa de 1976 est indisponible pour des questions de droit que nous n'avons pas encore réussi à résoudre, mais nous espérons bien le faire bientôt. Nelly Kaplan était quelqu'un de très important, de passionnant, et ceux qui l'écoutent et regardent ses œuvres ne peuvent qu'en tomber amoureux. En tout cas, moi, je l'ai été.